Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une histoire très douloureuse. L'affaire de la Motte du Caire dans les Alpes de Haute-Provence en 1988. Une petite fille, Céline Jourdan, violée et assassinée en plein été. Et deux suspects, qui ont tous les deux des têtes de coupables. Sauf que parmi eux, il y a un innocent. J'écris cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
La Motte du Caire, dans les Alpes de Haute-Provence, est un joli petit village de 400 âmes, cerné par les montagnes. Et sur la plage, il y a un café, le café de la Poste. Tout le monde connaît le patron, Gilbert. Gilbert Jourdan et sa petite fille Céline, qui ne vit pas là, mais qui vient toutes les vacances. Et le mardi 26 juillet 1988, Céline, à l'heure du dîner, on ne la trouve pas. Alors son père fait le tour du village.
Vous n'avez pas vu ma fille ? Je sais pas où elle est. Elle était avec nous au café, on allait passer à table. Elle était là il y a 10 minutes. Putain. Et là, elle a disparu.
Personne ne l'a vue. Alors le père alerte les gendarmes qui mobilisent tout de suite les villageois et quelques vacanciers pour fouiller le village. Et parmi ces volontaires, il y en a un qu'on peut pas louper. Hein. Un tatoué qui s'est installé à la Motte du Caire depuis peu. Didier. Il a passé la fin de l'après-midi à boire des bières au café. Et comme il connaît bien la petite Céline, comme il lui arrive de la faire sauter sur ses genoux au bistrot, tout naturellement, il a participé aux recherches.
Tu l'as pas trouvé bizarre, toi, Didier ? Je sais pas, pendant la battue, moi je l'ai trouvé agité, désordonné, tu vois. Bizarre. Je peux pas dire différemment. Bizarre.
Ouais. Et tatoué, surtout. Marginal. Et donc forcément un peu suspect. Quoi qu'il en soit, la nuit tombe et Céline est introuvable. Le lendemain matin, les journalistes débarquent à la Motte du Caire. Une petite fille qui disparaît en plein mois de juillet, ça fait toujours une bonne histoire. Et ils tendent leur micro de ci, de là, et ils tombent sur la grand-mère de Céline.
Elle a disparu dans l'espace d'un quart d'heure, elle a eu disparu, on l'a plus retrouvée. Elle était là avec nous dans le bar, parce qu'on est dans le bar. Et 9h15, elle était dans le bar. 9h30, on l'appelle pour manger. Et elle a eu disparu, on l'a plus retrouvée. Il y avait des clients, personne n'a vu partir, personne n'a rien vu. Il y avait du monde, mais enfin, disons moyennement. Hein. Je ne pensais pas que ce soit un accident. Je penserais plutôt au crime.
La grand-mère pense à un crime. Et elle n'a pas tort. En début d'après-midi, à environ 1 kilomètre du café de la Poste, au bord d'un torrent asséché, dans un taillis, on retrouve le corps d'une petite fille, à moitié nue, la tête fracassée par une pierre. Et c'est Céline. C'est Céline. On l'a tuée. Et c'est là qu'on en revient à Didier. Le tatoué, Didier Gentil. Des jeunes du village l'ont vu la veille avec la petite.
C'était vers 8h du soir. Il tenait Céline par la main. Et il allait vers où ? Eh bien, il allait vers le camping.
Eh ben voilà, on vous l'avait bien dit. Didier Gentil, le tatoué, est tout de suite interpellé. Et avec lui, un autre marginal du village chez qui il habite, Richard Roman. Lui, les gens du village l'appellent l'Indien, parce qu'il vit dans un tipi. Ça va être un original, un Parisien d'une trentaine d'années, pieds nus même en hiver. Et avec ça, sale comme un peigne. Il a une bergerie là-haut, dans les collines, avec 30 chèvres, dont il tire un fromage de qualité moyenne, d'après ce qu'on dit.
Il y avait beaucoup de passages là-haut chez lui, des plus ou moins louches. Des gens au teint blafard, les yeux tirés, mais il vivait avec ses chèvres... Moi, la dernière fois que je suis allé, puisqu'on a des gens autour, il vit nu, vraiment original, les cheveux longs, tressés, sales, qui fait peur, quoi.
Les gendarmes commencent par perquisitionner le tipi et la bergerie.
Hé, regarde ce que j'ai trouvé.
Une bande de tissu que l'Indien semble utiliser comme pagne et sur laquelle il y a des taches de sang. « Voilà donc Richard Roman et Didier Gentil en garde à vue à la gendarmerie. Didier Gentil est interrogé par le patron de la gendarmerie du coin. Et il passe aux aveux assez vite.
Oui, oui, d'accord, c'est moi qui l'ai violé, ça je l'avoue. Mais c'est pas moi qui l'a tué, hein. C'est Richard, il l'a tué. Je le jure, c'est pas moi.
Pour l'instant, Richard Roman, qui est interrogé dans le bureau d'à côté, nie. Et puis d'un coup, il avoue à son tour.
Je l'ai tué. Je l'ai tué, j'ai violé Céline. J'ai rien à ajouter à ça.
Ben voilà, en 24 heures de garde à vue, cette affaire est pliée. Et pour bien bordurer leur dossier, les gendarmes organisent sur le champ une reconstitution, sur place.
Bien, Gentil, vous allez refaire maintenant les gestes que vous avez faits avant-hier. Hein ? Allez-y.
Didier Gentil attrape un mannequin qui représente la petite Céline. Il le traîne jusqu'à la rivière et il mime la scène du viol.
Bon, maintenant c'est à vous, Roman. Hein ? Vous refaites exactement les gestes que vous avez faits.
Et Roman montre comment il a tenté d'étrangler Céline, comment il l'a frappée, et comment ensuite il lui a fracassé le crâne avec une pierre. Rien à dire. Ils ont avoué, ils ont refait les gestes. C'est une affaire pliée. C'est une jeune juge d'instruction de 25 ans qui récupère le dossier. Et donc c'est elle qui les reçoit tous les deux en vue de leur inculpation. Didier Gentil d'abord, et ensuite Richard Roman.
Vous pouvez lui retirer les menottes, je vous prie. Asseyez-vous, monsieur Roman. Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer ?
Ça, c'est la règle. Lors d'un interrogatoire de première comparution, le juge ne peut pas poser de questions.
Ouais. Oui, j'ai quelque chose à déclarer. Ce que j'ai dit aux gendarmes, c'est pas vrai. Je l'ai pas violée. Je l'ai pas tuée, cette petite fille. Je suis innocent. Il faut que vous me croyiez, madame le juge. Je suis innocent. Mais alors, pourquoi est-ce que vous avez avoué ? Ils m'ont pas vraiment laissé le choix. Ils ont exercé sur moi des pressions insupportables. Bien. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent.
Dans l'immédiat, peu importe, Roman et Gentil sont inculpés du viol et du meurtre de la petite Céline et écroués à la prison des Baumettes à Marseille. Et dans la foulée, c'est la curée. La presse dégaine le portrait de deux monstres. Tous les ingrédients sont là. Un tatoué, un indien. Deux marginaux, deux coupables. Peu importe les rétractations de Roman. Et du coup, quelques jours plus tard, il y a 100 personnes devant les Baumettes qui réclament la peine de mort pour les assassins de Céline. En tête desquels le père, Gilbert Jourdan. Et dans la foulée à Nice, plusieurs milliers de personnes descendent dans la rue, dont le maire de l'époque, Jacques Médecin, qui eux aussi, 7 ans après l'abolition, demandent le rétablissement de la peine capitale. Pendant ce temps-là, au fond de sa cellule des Baumettes, Richard Roman continue de dire qu'il est innocent. Mais pour l'instant, personne ne veut l'entendre. Sauf que Roman, et ça c'est une donnée non négligeable de cette affaire, a une famille. Didier Gentil, non. Didier Gentil, c'est un enfant de la DAS. Il a été abandonné par sa mère à 5 ans. Mais Roman, son père est militaire, et surtout son frère Joël est le rédacteur en chef de la revue Esprit. C'est un philosophe de gauche très connu. Si Richard Roman est vraiment innocent, si les gendarmes lui ont arraché ses aveux, il a les moyens de se défendre. Pour commencer, grâce à son frère, Richard Roman enrôle comme avocat un ténor du barreau de Paris, maître Henri Leclerc, président de la Ligue des droits de l'homme. Et Leclerc et son équipe savent d'entrée qu'ils ont une carte à jouer. Parce qu'ils ont lu le procès-verbal des aveux de Richard Roman. Et ils ont noté par exemple que Roman ne parle jamais spontanément des détails du crime. Il ne fait que confirmer ce que disent les gendarmes. Par exemple, il ne dit pas « J'ai ramassé une pierre et je m'en suis servi pour tuer Céline ». Il dit « La pierre que vous me présentez est bien celle dont je me suis servi pour tuer Céline ». Ça peut paraître accessoire, mais c'est essentiel. Il ne révèle rien du crime, rien qui ne soit déjà connu des gendarmes. Et puis, ce PV d'aveu, comme souvent, est très décousu. Je l'ai sous les yeux. Question des gendarmes. Qu'avez-vous bu au bar ce soir-là? Réponse de Richard Roman, j'ai bu au moins un café. Et dans la foulée, sans autre question apparemment du gendarme, je demande pardon à Céline et à ses parents et adieu au nom de ma mère. Et toujours dans la foulée, et toujours sans autre question, j'ai tué, et j'ai violé Céline, et je n'ai rien à ajouter à ça. Ça saute aux yeux. Ce procès-verbal est ce qu'on appelle une synthèse. Il y a toutes les réponses de Roman, mais pas toutes les questions du gendarme. Ça peut laisser penser que les questions ont été orientées. Et pour Roman qui désormais nie, c'est une carte à jouer. Cinq mois après la mort de Céline, l'enquête connaît un rebondissement. La juge reçoit les résultats des analyses génétiques effectuées sur le corps de Céline. On est en 88. On en est au balbutiement des techniques de l'ADN en matière de police scientifique. Mais là, miracle.
Bon, donc on a trouvé deux ADN. Hein. Alors l'un est inexploitable, mais le second est celui de Gentil Didier.
Vous n'avez aucune trace de l'ADN de Roman?
Aucune, madame la juge.
Y compris, pardonnez-moi cette question un peu pénible, y compris dans la partie anale du corps.
Les prélèvements réalisés dans la partie anale, comme vous dites, correspondent à l'ADN de Gentil Didier, exclusivement.
Tiens, Gentil accusait Roman d'avoir sodomisé la petite. Or c'est lui qui l'a sodomisée, il a menti. Et s'il a menti une fois, etc. Du coup, fort d'avoir marqué un point, Maître Leclerc demande la remise en liberté de Richard Roman. Et Nice Matin, dans un exercice assez éloigné du journalisme, titre « On a osé demander la libération de l'un des meurtriers ». Peu importe, la demande est rejetée. Roman reste au beau maître. Je passe sur le changement permanent de juge d'instruction, 3 juges en un an. Mais peu importe pour le coup, parce que dans cette affaire, ça n'est pas un juge qui va faire avancer la justice. C'est un journaliste. C'est assez rare pour le souligner. Il s'appelle Lionel Duroy et il est reporter à l'événement du jeudi. Et ce qui l'incite à se lancer dans cette affaire, c'est une incohérence dans les aveux de Richard Roman, qu'il a lu bien sûr d'un bout à l'autre. Il y a un truc que je pige pas. Roman dit qu'il a violé la petite Céline aux alentours de 21h30. Or, d'après le légiste, elle est morte entre 21h et 21h15. À l'heure donc où il dit l'avoir violée, elle était déjà morte. Il y a un truc qui va pas. Et c'est sur la base de cette incohérence que le journaliste Lionel Duroy convainc son rédacteur en chef de l'envoyer à la Motte du Caire. Et pas pour envoyer un papier dans 2 jours. Hein. Tu prends ton temps, d'accord? Il n'y a rien de pressé. Et quand t'as quelque chose de vraiment solide, eh ben on sort un papier. Ok ? Quand il arrive sur place, à la Motte du Caire, Lionel Duroy décide de réinterroger un par un tous les témoins, sans leur dire ses doutes, bien sûr. Ce qui l'intéresse, ce sont ceux qui disent « J'ai vu Roman partir à telle heure dans telle direction ». Et après, Duroy, avec sa propre voiture, refait le chemin dans un sens et dans l'autre. Et il se chronomètre. Et il bute sur une incohérence totale. Salut, c'est Duroy à l'appareil. Bon, je crois que j'ai quelque chose. Je peux te la faire rapide. À l'heure du crime, entre 20h50 et 21h15, j'ai établi grâce au témoignage que Roman arrive sur la place du village et qu'il s'installe au bar, qu'il prend un café, qu'il achète des cigarettes, et à la fin, tout le monde dit qu'il quitte le village dans la direction opposée
au lieu du crime. Donc il pouvait pas être au même moment avec Didier Gentil en train de violer, de tuer Céline près de la rivière. C'est impossible. Je crois que je tiens de quoi faire en papier. Mais je te préviens, ça va faire pas mal de bruit. Hein.
Ah ben super, Lionel. Écoute, à toi de jouer. Hein. J'attends ton papier, avec impatience.
Et le papier sort dans l'événement du jeudi. Mais y a-t-il quelqu'un pour le lire et l'entendre? Ça, c'est autre chose. Ce que disent les gens, c'est plutôt... Et d'après toi, pourquoi il s'agit de celui-là, hein? Pourquoi il essaye de montrer que l'autre indien est innocent? Eh bien, parce que c'est un gauchiste. C'est un gauchiste qui vole au secours du frère d'un gauchiste. Et puis c'est tout. Et c'est que de la canaille, tout ça. Que de la canaille. Mais le fond de l'article, l'incohérence horaire, le fait que Roman ne pouvait pas être à la fois au village et sur les lieux du crime. Ça, pour l'instant, il n'y a personne pour le retenir. Et personne pour l'entendre. Et quand Lionel Duroy va voir le chef de la gendarmerie, il en prend pour son grade. Non mais qu'est-ce que vous y connaissez, vous, un interrogatoire? Vous croyez que c'est facile de faire avouer les crimes à quelqu'un? Ça a pris du temps. Romain résistait. Mais il a toujours résisté à l'ordre ici. Il roulait dans n'importe quoi, sans immatriculation, sans carte grise, sans chaussures, sans rien. C'est fou, le poids des préjugés dans ce dossier. Les Indiens sont forcément des tueurs, et les gauchistes, des menteurs. Tous ces gens devraient savoir pourtant que l'api ne fait pas le moine. Onze mois après le meurtre de Céline, on a changé de juge, bien sûr. Et le nouveau juge organise une reconstitution à la mode du Caire. Il fait venir Roman et Gentil par hélicoptère. Mais il refuse qu'ils participent physiquement à la reconstitution. Moi, je veux pas que les gens du village se jettent sur eux. Je veux pas qu'ils les lynchent, ok? On est là pour un acte de justice, on n'est pas là pour une exécution publique, d'accord? Donc, eux, ils disent comment ça s'est passé, hein? Et c'est un gendarme qui fait les gestes à leur place. Entendu? Entendu? Pas sûr. L'opération vire au pugilat. Les gens autour se mettent à hurler. Ils veulent les voir, eux, l'Indien et le tatoué. Et ils voudraient bien les lâcher là, sur le champ. Alors ils essayent de franchir le cordon de gendarmes qui les sépare de la reconstitution. L'avocat de Richard Roman, Henri Leclerc, se fait arracher sa chemise. Il se retrouve torse-poil. Et celui de Gentil, maître Jurami, est frappé par les gens du village.
Je ne vois pas pourquoi j'ai été aujourd'hui sauvagement frappé et je rendrai le coup qui m'a été donné.
Défenseur d'assassin, pourriture!
Le père de Céline est plaqué au sol. Et le grand-père éclate de colère.
Il s'est passé qu'on me demande dans quelle position était Céline avec Gentil. Et puis on me présente un gendarme qui joue au flipper avec un mannequin sur les genoux. Alors moi j'avais commencé tout confiant à faire mon récit. Et puis quand je me suis aperçu qu'on me prenait pour un con, j'ai dit maintenant monsieur c'est fini, monsieur le juge c'est fini, je m'arrête parce que vous me prenez pour un con. C'est une mascarade, c'est un attrape-couillon, c'est tout ce que l'on veut. Ça n'a rien à voir avec une reconstitution.
La reconstitution est impossible. Alors elle est annulée. Et ensuite, nouveau changement de juge d'instruction. Et perte de temps. Sauf que 2 ans après, le nouveau juge à son tour est interpellé par les incompatibilités horaires. Et lui aussi, comme le journaliste Lionel Duroy, arrive à la conclusion que Richard Roman ne pouvait pas être physiquement présent sur les lieux à l'heure du crime. Et comme les traces de sperme retrouvées sur le corps de Céline n'appartiennent qu'à Didier Gentil, alors plus rien dans ce dossier ne justifie de maintenir Richard Roman en prison. Rien. Il avertit les parents de Céline. Diplomatie. Je n'ai aucun élément convaincant contre Richard Roman. Sur Didier Gentil, je n'ai aucun doute. Mais concernant Roman, j'ai décidé de le relâcher. Et dans la foulée, il signe une ordonnance de non-lieu en faveur de Roman, qui, après 27 mois de détention provisoire, quitte la prison des Baumettes. Autant vous dire que ça fait un de ces bruits. Justice à deux vitesses. On innocente un bourgeois parisien parce qu'il est le frère d'un intellectuel de gauche, défendu par un avocat de gauche. Tous pourris. Au point que le juge doit venir s'expliquer devant les journalistes. J'estime qu'il n'existe pas de charge suffisante
pour inculper Richard Roman. C'est donc en pleine conscience et en pleine liberté que j'ai pris ma décision. Ceux qui ont dit que j'ai cédé à des pressions ont le devoir de le prouver ou celui de s'excuser. Je vous remercie. Mais c'est pas fini. 3 semaines plus tard, la chambre d'accusation annule l'ordonnance de non-lieu. Les juges pensent qu'entre le début de l'agression et la mort de Céline, Richard Roman a eu parfaitement le temps de se rendre 2 fois au village pour s'y faire voir. Et donc le 26 avril 1991, Richard Roman retourne en prison. Ce sera à la cour d'assises de trancher. Ils seront jugés tous les deux. Le procès de Richard Roman et Didier Gentil s'ouvre le 30 novembre 1992 devant la cour d'assises de Grenoble. Les voilà assis côte à côte sur le banc des accusés. L'Indien chevelu et le tatoué Didier Gentil, qui lui a avoué, qui lui ne s'est pas rétracté, qui lui ne peut pas se défiler puisqu'il est plombé par son ADN retrouvé sur le corps de Céline.
Immature, instable, inculte, affabulateur, influençable, voilà comment l'ont décrit les témoins hier à la barre, son propre frère et les éducateurs. Didier Gentil est un paumé, abandonné par sa mère, ballotté de la DAS en foyer d'accueil, menteur, voleur, un numéro sur un dossier. Mes jeux, a-t-il dit, c'était de faire ce qui est interdit. J'ai toujours eu l'esprit d'un gosse de 10 ans. Je ne suis jamais devenu adulte. Il est d'ailleurs resté impassible lorsque sa mère est venue témoigner. Il n'a pas sourcillé lorsqu'elle a prononcé cette phrase terrible. Ce qu'il a fait est atroce. Didier n'est plus mon fils. Je me l'enlève. Grenoble, Brigitte Rinaldi, Europe 1.
On s'arrête bien sûr longtemps sur la question des horaires. C'est la clé de tout. Richard Roman pouvait-il, oui ou non, être physiquement sur les lieux du crime au moment du viol et du meurtre? Le dossier d'enquête suggère que non. La plupart des témoins interrogés pendant l'enquête disent qu'ils l'ont vu au café entre 21h et 21h30, l'heure du crime. Seulement voilà, 4 ans plus tard devant la cour d'assises, ils ont tous changé de pendule, comme un seul homme, tous. Ils s'en souviennent maintenant. C'est à 8h30 que je l'ai vu. Je me suis trompé, c'était pas à 9h30, c'était à 8h30. Je l'ai vu au café à 8h30. Si c'est 8h30, du coup, il avait largement le temps de rejoindre Gentil et donc de violer et tuer Céline. Le président s'étonne de leur revirement. Il bafouille, mais il ne bouge pas. C'était 8h30 et puis voilà. Et de toute façon, ils ont juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, alors... Bref, les premiers jours ne sont pas du tout favorables à Richard Roman. Jusqu'à l'arrivée d'un témoin inattendu. Il s'appelle Christian Célarier. Ça n'est pas un habitant de la Motte du Caire. J'étais en vacances à l'hôtel, avec ma femme. Et vers 9h30, j'ai vu l'Indien chevelu, en pagne, qui buvait sur la terrasse. Ce que je veux dire ici, c'est que quelques jours après le drame, les gendarmes sont venus m'expliquer que 9h30, c'était pas possible, hein, que j'avais dû me tromper, que ça collait pas. Et que ça serait bien que je change mon témoignage pour dire que c'était 8h30. Au début, j'ai refusé. Et puis ils ont insisté en me disant 9h30, ça rendrait service à ce salaud. Alors j'ai cédé. Et à l'époque, j'ai changé mon témoignage. Maintenant que je perçois l'enjeu de tout ça, évidemment, je regrette. C'est à 9h30 que je l'ai vu.
Un murmure s'élève au-dessus du public. Le vent vient de tourner. Même l'avocat général a l'air secoué. Le lendemain, Didier Gentil craque.
Je sais pas si Roman, il était là. J'ai peut-être inventé. Faut me soigner. Je te demande pardon à Richard.
Incroyable retournement. La salle est stupéfaite. À commencer par la famille de Céline. Ça fait 4 ans que toute leur haine est dirigée vers Roman. Et le coup de grâce vient de l'avocat général.
Je vous demande l'acquittement de Richard Roman.
Le 17 décembre 1992, à midi, la cour se retire pour délibérer. Ça dure 5 heures. Et le verdict découle des débats. Didier Gentil est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et Richard Roman est acquitté. Hurlement sur les bancs de la famille Jourdan. Le père, l'oncle et le grand-père de Céline sortent de la salle d'audience. Ils sont furieux.
Honte, honte.
Voilà.
On a honte d'être français. Vous avez vu, quand il est acquitté, on a honte d'être français. Là, voilà.
Et dans un geste de désespoir, les Jourdan brûlent leurs papiers d'identité devant la foule. Richard Roman est libéré le lendemain matin.
C'est la fin d'un désastre judiciaire et surtout, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à la famille ?
Je crois que c'est à leurs avocats d'être courageux et de leur dire la vérité. Je crois que c'est aussi à vous, la presse. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce procès que vous avez recueilli, mais c'est aussi à vous, maintenant que vous avez tous les éléments du dossier, de pouvoir discuter chaque point précisément et d'arriver à étaler tout ça correctement et que la vérité éclate pour tous.
Il est libre. Et il est peut-être temps que la vérité éclate au grand jour. Roman a un sérieux problème psychiatrique. C'est un malade. Avant l'affaire, il a fait 2 séjours en hôpital psychiatrique. Et après l'affaire, un soir, la police le retrouve au bord de la Seine, en train de parler aux arbres. Et il est à nouveau interné. Quand il sort, il va vivre chez sa mère, à Annecy. Il est déclaré adulte handicapé. Mais comme beaucoup de malades psychiatriques, il se soigne mal. Ça fait partie de la maladie. Et jamais, jamais il ne retrouve l'équilibre. 20 ans après le drame, on le retrouve mort dans son appartement de Haute-Savoie.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.